Oui, bonsoir à tous. Je ne pense pas pour ma part que ce soit le nombre de francs-maçons, 150, 160 000 en France, que l'on peut mettre en rapport avec la capacité de modifier ou de contribuer à modifier l'avenir, la vision d'avenir.
D'influencer, vous voulez dire.
D'influencer l'avenir. Je crois que c'est davantage, me semble-t-il, la capacité de réflexion innovante, parfois au-delà de l'innovation, parfois révolutionnaire, cette capacité de faire des propositions pertinentes, en mesure de retenir l'attention eh bien, des institutions consultatives, telles que le Conseil économique et social, ou bien législatives, telles que le Sénat ou le Parlement, dans le but de contribuer à des projets de loi par le gouvernement ou des propositions de loi par les instances législatives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on est en manque. On est en manque, cruellement. Et ce qui ressort de nos discussions, c'est ce qui ressort des questions qui ont été posées. Et je me souviens, avec, c'est vrai, un petit peu de nostalgie, souvenons-nous des contributions qui avaient été apportées à l'époque, aussi bien par les obédiences sociétales, telles que le Grand Orient de France, ou par des obédiences peut-être plus spirituelles, ou qui se veulent plus initiatiques, comme la Grande Loge, et d'autres, et qui ont abouti sur des lois transformées par l'alchimie de nos institutions, hein, d'abord consultatives et ensuite législatives, et qui ont abouti sur le planning familial, qui ont abouti sur la contraception, enfin, le docteur Simon, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Alors, sommes-nous moins écoutés parce qu'on ne trouve plus d'oreilles attentives ? C'est possible. Ou bien, notre réflexion est-elle moins pertinente ? J'ose poser la question. Merci.
Oui, non, je voulais dire simplement, ça c'est un avis personnel, mais la contraception, c'est brandi comme un scalp depuis des siècles, hein, maintenant. Oui. Donc, je veux dire...
Non, mais c'est un cas intéressant, Pierre Simon. Je n'ai pas parlé au nom de la Grande Loge de France, mais regardez bien la vie de Pierre Simon. Moi, je pense que Pierre Simon a créé le planning familial, mais pas la franc-maçonnerie. Pierre Simon était franc-maçon, ça d'accord. Il était un grand franc-maçon. Est-ce qu'il aurait créé le planning familial s'il n'avait pas été franc-maçon ? Bon, ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Si vous regardez bien ses écrits, vous apercevez que lorsqu'il parlait du planning familial et de la sexualité féminine dans sa loge, franchement, ça passionnait pas les frères, honnêtement. Bon, il a trouvé, ça c'est intéressant de le dire, il a trouvé dans les fraternelles, notamment une fraternelle de gynéco, il était gynéco, il a trouvé des professionnels, maçons, avec qui il a réfléchi. Mais au bout du compte, c'est lui qui a fait le travail. Donc c'est ça où je ne comprends pas cette histoire de regarder les trains passer. C'est pas la franc-maçonnerie qui a aboli l'esclavage, c'est Schœlcher. Alors Schœlcher était dans une loge, et pareil, était dans une loge, alors l'abolition de l'esclavage, c'était pas du tout leur truc. En revanche, ils ont toujours soutenu leurs frères. Ils ont pansé ses plaies, et Dieu sait qu'il y en a eu, parce qu'il prenait pas mal de coups. Donc je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. Ceci étant dit... ce qui ne peut peut-être pas se faire au niveau de la franc-maçonnerie en tant qu'institution un petit peu floue, peut peut-être se faire quand même, ça n'empêche pas la réflexion. Moi j'ai juste une expérience que je voudrais partager avec vous, qui n'est, donc chez nous on ne fait pas de politique, donc il n'y a pas de question aux loges, le problème ne se pose pas, fermez le rideau. En revanche, ça n'empêche pas les frères et sœurs d'appartenir à des commissions de travail interobédientielles, c'est mon cas. Il y a une commission qui s'appelle la Comalas, qui travaille sur l'Europe. Le gros avantage que nous avons, et nous ne le disons pas assez souvent, c'est que la franc-maçonnerie n'est payée par personne. Enfin, n'est subventionnée par personne. C'est comme les frères et sœurs qui payent. Mais n'est subventionnée par personne. Et lorsque, à la Comalas, nous faisons des rapports, tous les ans, et que nous les amenons aux délégués européens, ils nous disent « Ah, vous, on vous aime bien, parce que vous, vous n'avez rien à vendre. » Et c'est vrai, nous, on n'a que nos valeurs à vendre. On n'est pas un lobby. On ne défend pas d'intérêt particulier. Donc il y a quand même une place pour une réflexion. Alors, est-ce qu'on dirait une réflexion philosophique ? C'est un mot dont je me méfie un peu parce qu'il est un peu flou. Mais c'est sûr que ça n'est pas, lorsqu'on travaille à 25 de niveaux différents, de compétences différentes, c'est pas à 25 qu'on va arriver à faire un outil affûté avec des réglementations précises. On va donner des grandes indications.
Lesquels, par exemple, vous avez donné dans vos derniers travaux?
Non, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas celui de la Comalas, mais qui est celui de l'AME. Mais je vais prendre un exemple très précis. L'AME, qui est l'Alliance maçonnique européenne, on a travaillé sur le thème de l'éducation. Et on a eu une idée, je ne sais pas si on est les premiers à l'avoir, ce serait bien qu'il y ait un seul livre d'histoire pour tous les scolaires européens. Alors, c'est peut-être un vieux truc, je ne sais pas. À mon avis, c'est vraiment de l'utopie. Mais ça, c'est de l'utopie qui est réalisable. Vous vous rendez compte, le même, ne serait-ce qu'entre les Français et les Allemands, moi, mon fils a fait ses études en Allemagne, quand il me racontait ses cours d'histoire, ce n'était pas du tout les mêmes que les nôtres. Bon. C'est, non seulement ce n'était pas les mêmes, mais ce n'était pas du tout compatible. Bon. Voilà, donc ça, c'est des choses concrètes qui ne demandent pas, j'allais dire, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas des experts. Il y en a dans les loges, enfin, on n'est pas tous experts de tous les sujets, mais on est tous des citoyens. Et on a tous du bon sens, le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde, normalement. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Mais je crois qu'il faut donner la limite de cette réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon avis, rêver à une maçonnerie qui fait les lois. Ça, c'est plus possible. Et pour être très honnête, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Ça a correspondu à une période historique française très précise. Et je ne sais pas si ça n'a pas fait plus de tort qu'autre chose. En tout cas, qu'il y ait dans ce lieu une réflexion sur les grandes valeurs que nous portons et les grandes valeurs que nous véhiculons et que nous conservons, parce que nous sommes aussi un conservatoire de valeurs. Ça fait partie, je crois, des attributions de la franc-maçonnerie. Ça, oui, j'y crois, absolument.